Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour Marc Hervé.
Bonjour.
Bienvenue à cette rencontre. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Rennes en charge de l'urbanisme et conseiller communautaire à Rennes Métropole, délégué aux formes urbaines. Donc on va bien sûr parler aujourd'hui de construction et d'immobilier à Rennes. On avait eu d'ailleurs le plaisir, dans le cadre du Club des maires de la rénovation urbaine ces jours-ci, de faire une rencontre autour d'Honoré Puil, président de Foncier Solidaire France, et qui travaille à vos côtés. Et on a bien compris que vous êtes dans les premières villes à avoir mis en place le BRS et la dissociation du foncier et du construit. Mais quelle est aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la politique du logement actuelle à Rennes? Comment construire de nouveaux logements tout en évitant l'exclusion des ménages les plus modestes par les prix de l'immobilier?
Ben, on est dans un dialogue qui est nécessaire entre deux points importants, hein, qui est la fonction d'accueil d'une ville, parce qu'une ville, quand elle est pleine de vitalité et dynamisme, elle peut être facilement un lieu d'exclusion par les prix du logement si l'offre de logement n'est pas au niveau des attentes des concitoyens et des besoins des concitoyens. Et puis l'autre versant, c'est tout ce qui relève de la qualité du cadre de vie. Et donc, dans ce dialogue entre les nécessités de l'accueil, et à Rennes, ça se joue à un niveau de construction entre 1500 et 2000 logements à l'année qu'il nous faut pouvoir mettre en œuvre pour garder une croissance démographique qui se joue entre 0,5 et 1%, qui n'est pas une croissance exponentielle, qui est une croissance qui est maîtrisée, qui permet de garder des services, des commerces, des écoles. Et puis, l'autre versant, je vous le disais, c'est le cadre de vie. On sait aussi ce qui fait la qualité de ville comme Rennes et le cœur de nos métropoles, c'est ce sentiment que peuvent avoir les uns et les autres de passer d'univers ou d'ambiance très différentes les unes aux autres. À Rennes, on a ce modèle urbain de la ville-archipel qui permet de concilier à la fois l'urbain et la campagne, parfois en 10 minutes ou 5 minutes, et où ces ruptures d'ambiance amènent cette qualité de vie. Et donc, ce dialogue permanent entre le fait d'accueillir tout en maintenant une qualité de vie qui est reconnue, ça c'est notre enjeu permanent. Et avec un troisième point peut-être qui est l'acceptation sociale, c'est-à-dire que dorénavant, et c'est aussi l'objet du zéro artificialisation nette, c'est que les villes vont se reconstruire sur elles-mêmes, qu'à partir de là, on n'est plus dans l'extension urbaine et qu'on construit la ville dans des tissus urbains constitués, donc en pleine proximité d'habitants qui existent, qui préexistent aux opérations à venir, et ça nécessite à chaque fois qu'on puisse trouver ce bon équilibre en termes d'acceptabilité sociale. Il est compliqué d'avoir et de donner pleinement satisfaction aux riverains, mais il est parfois utile de pouvoir trouver ce que sont des modes de réponse à des sensibilités qui sont exprimées par les riverains. Donc deux éléments assez forts, l'accueil, le cadre de vie, et puis un élément de méthode qui est l'acceptabilité sociale.
Qui devient de plus en plus prégnant dans beaucoup de collectivités locales. En 2018, vous avez lancé l'expérimentation du loyer unique dans le parc HLM du territoire afin de favoriser la mixité sociale dont vous venez de parler à l'instant et plus d'égalité dans l'accès au logement. Combien de foyers bénéficiaires et combien de logements sont concernés? Quelle première conclusion pourriez-vous tirer de cette expérimentation?
Alors c'est une expérimentation qui prendra du temps parce que on révise les loyers à la relocation et donc ça s'inscrira dans le temps et c'est prévu pour ne pas être une rupture franche. Mais l'idée est de se dire que il n'y a pas de quartier à Rennes auquel on soit assigné à résidence et qu'on doit avoir une liberté de choix dans la manière dont on choisit les quartiers, parce que cette mixité sociale qu'on évoque, elle doit se jouer sur l'entièreté de la ville, voire sur l'entièreté même de la métropole, puisque c'est à cette échelle des 43 communes de Rennes Métropole que se joue le loyer unique. Et à grand trait, hein, quel que soit votre niveau de ressources, à partir du moment où vous êtes sous les plafonds de ressources, vous pouvez avoir accès à des logements, quel que soit le quartier. Et on sait combien peuvent être compliquées parfois les lectures de ce que doivent être les loyers. Là, la chose est simple. À partir du moment où le loyer est unique et donc vous choisissez non plus votre logement en lien avec son année de contractualisation, son année de fabrication ou son emplacement dans la ville, mais vous choisissez là où vous voulez habiter. Et ça, c'est un point important, c'est que le logement social ne doit pas être synonyme d'assignation sociale dans des quartiers, quel qu'il soit, et on doit pouvoir accéder à l'ensemble de la ville.
Et donc ça, cette mobilité à l'intérieur du parc, finalement, elle est en route aujourd'hui? Elle concerne combien de personnes par an?
Oui, alors on est, on travaille à ce que ce soit une réalité. C'est compliqué de chiffrer dans un premier temps parce que, je vous dis, on est plutôt dans la relocalisation et c'est au moment donc, où on reloue l'appartement. D'accord. Que on met au fur et à mesure, mais on se dit qu'à échelle de 10 prochaines années, donc à 10 ans, l'ensemble du parc locatif sur la ville de Rennes et sur la métropole sera en loyer unique, et donc ça correspond à 25 000 à 30 000 logements sur l'ensemble. Donc ce qui est un point important dans l'offre de logement qui est la nôtre, de faire en sorte qu'on ait accès partout dans la ville à terme à l'ensemble de l'offre de logement social, quand on sera bien évidemment éligible au logement social.
Vous avez évoqué tout à l'heure, dans le grand écart de l'équilibre de l'acceptabilité sociale de la construction, la nécessité de reconstruire la ville sur elle-même. Comment construire aujourd'hui avec des objectifs justement de préservation des sols?
Alors tout l'enjeu, c'est ce que vous indiquez, hein, c'est de pouvoir construire 1500 à 2000 logements dans un territoire qui est fini et dont on s'intéresse au tissu urbain constitué, et ce qui nous amène à avoir cette exigence assez forte de construction de logements sur des parcellaires. On est aussi très attentif, ce que vous indiquez, à l'occupation du sol. Et vous avez un coefficient de végétalisation, par exemple, dans le plan local d'urbanisme de la métropole, qui invite à avoir 30 à 40% de végétal au sol, et donc de restreindre ce qu'est l'emprise du bâti sur sa parcelle. Et donc, bien souvent, on a une quadrature du cercle qui est un peu compliquée, parce que si on y rajoute l'objectif d'accueil des populations et de toutes les populations, on a cette difficulté à pouvoir faire face à ce niveau de construction de logements, et bien souvent on passe par la question des hauteurs. Alors c'est pas une lubie d'élu ou c'est pas un objectif en soi que la hauteur, mais on voit bien que c'est par contre la solution que l'on peut avoir pour pouvoir faire face à ces exigences sociales, à ces exigences écologiques et à ces exigences aussi économiques. Faire en sorte que les projets sortent. Et donc, cette acceptation de la hauteur, elle est aussi fondamentale dans le récit urbain qui est le nôtre vis-à-vis des populations qui sont concernées.
Est-ce que vous avez envisagé, dans cette acceptation de la hauteur, au-delà du neuf, de faire de la surélévation de bâtiments existants ou pas encore?
Effectivement, enfin, ça fait partie des pistes qui sont regardées, parce que si on ne peut pas s'étaler au sol, ben, on s'élève. Et la question de l'élévation, elle vaut pour les logements nouveaux. Elle vaut aussi pour les logements existants sur des tissus pavillonnaires où les mètres carrés sont à rechercher plutôt en hauteur que plutôt au sol, parce que je pense que la question du XXIe siècle est cette question de l'occupation des sols, avec des sols qui doivent avoir des fonctions premières, et notamment en termes d'environnement et d'écologie, pour permettre entre autres l'infiltration des eaux et permettre cette rétention des eaux qui évite de dégrader ce que sont la qualité de nos cours d'eau.
C'est intéressant ce que vous avez dit. On avait rencontré avec le club de l'accession à la propriété des jeunes architectes qui réfléchissaient, parce que vous avez parlé des zones pavillonnaires, à la densification urbaine dans les zones pavillonnaires avec le projet Bimby. Grosso modo, construire un pavillon dans le jardin d'un pavillon pour accueillir deux familles plutôt qu'une, et au lieu d'aller faire au bout de la rue un R+3 qui nécessitera des investissements supplémentaires. Et en Ile-de-France, c'était intéressant parce que on va dire que dans un pavillon où il y avait un veuf ou une veuve parce que les enfants étaient partis, il pouvait rester dans son quartier tout en accueillant de nouvelles familles, des nouveaux modes finalement de réflexion sur la densification.
Oui, on les regarde de très près, hein, et dans les secteurs pavillonnaires, on voit que les divisions parcellaires sont aujourd'hui assez monnaie courante dans la manière de construire encore dans ces secteurs pavillonnaires, là où La constructibilité reste somme toute limitée, mais permet ces divisions parcellaires pour avoir un traitement sur la densification, sur des objets qui sont encore attendus. Hein. La maison individuelle fait partie des attentes de la population. Alors, il faut être vigilant.
Peut-être d'ailleurs un peu plus en année post-Covid qu'il y a un an, semble-t-il, de ce qu'on peut voir dans les zones urbaines.
On voit bien que la question des extérieurs aujourd'hui dans l'architecture est une question qui devient première. Alors, elles sont importantes pour les collectifs, elles le sont aussi pour des formes d'habitat individuel dense, mais qui doivent pouvoir offrir cet extérieur qui permet une respiration. Et donc l'habitabilité des logements est aussi une question politique. Ça ne renvoie pas seulement au choix individuel des uns et des autres, mais doit être traité politiquement dans nos textes type plans locaux d'urbanisme.
Pour construire cette acceptabilité sociale avec les habitants, comment vous avez mis autour d'une table les riverains et les acteurs de l'immobilier pour rendre acceptables ces futurs projets ?
Alors sur l'acceptabilité, on a une charte construction et citoyenneté qui est en voie de finalisation. Il y a eu un jury citoyen qui a entendu les architectes, les promoteurs, les notaires, un certain nombre d'acteurs de l'urbain et du développement de nos villes pour pouvoir faire en sorte que on ait des manières de faire et des outils qui permettent cette acceptabilité avec, si possible, le fait d'éviter d'arriver sur des projets qui soient tout ficelés et où on n'ait pas de capacité à embarquer le riverain ou l'habitant sur le projet qui va venir à côté de chez lui. À partir du moment où le riverain ou l'habitant devient acteur, même s'il peut ne pas partager pleinement, et on peut le comprendre, on n'est jamais très heureux d'avoir du changement autour de chez soi. Pour autant, si on arrive à embarquer l'habitant et le riverain dans une responsabilité partagée, dans un urbanisme négocié, on aura gagné cette bataille du renouvellement urbain. Et cette charte-là est en voie de finalisation et on devrait la passer au conseil municipal du mois de juin à Rennes.
Merci. On sera très preneurs de pouvoir lire cette charte, mais je crois que c'est en effet dans le dialogue et la co-construction entre les riverains, les promoteurs et bien sûr la collectivité qu'on peut renforcer cette acceptabilité. Merci Marc Hervé de ce temps que vous avez passé avec nous et au plaisir de vous réécouter dans quelques années pour faire le bilan de ces loyers uniques. Au revoir et très bonne journée.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.